Pour Quentin, 2012, c'est...
Le jour où nous cesserons d'aider notre prochain, à ce moment, nous aurons perdu notre humanité.
Le film 2012 de Roland Emmerich, mais pour tous les cinéphiles, 2012, c'est plutôt... Le triomphe de The Artist, le film de Michel Hazanavicius qui a valu un Oscar à Jean Dujardin, mais aussi à celui qui a composé la musique de ce film. Bonjour Ludovic Bourse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi Ludovic.
Merci.
On est vraiment très heureux de vous accueillir dans Zoom Zoom Zen. Vous avez beau aimer la discrétion, vous êtes l'un des plus grands compositeurs français. On vous doit évidemment ça.
Vous exagérez quand même.
Non, le temps des plus grands. Mais aussi, et de manière encore plus importante pour moi, qui en utilise des pans entiers, je pense que je vous dois une fortune à la SACEM, ça. La BO légendaire, cultissime, d'aucuns diraient même iconique, de OSS 117. Sur votre cheminée, il y a donc un Golden Globe, un César et un Oscar que vous avez la gentillesse de nous apporter en studio. Qu'est-ce que cette récompense a changé dans votre carrière et dans votre vie ?
Ben ça va apporter que des problèmes, parce qu'on a considéré que j'étais trop cher après pour travailler sur le marché. J'étais plus accessible, je vivais aux États-Unis et donc forcément, non, c'était un fardeau. Puis à chaque fois que je me déplace quelque part, on dit, tiens, Bourse est avec son Oscar qui traîne...
En même temps, vous l'amenez partout à chaque fois ?
Mais non, c'est exceptionnel. À une époque, on me demandait de l'apporter, ouais, qu'on faisait une tournée. On faisait la tournée dans le monde entier avec, entre autres, Michel. On est allé au Japon, mais après, ça a suscité des folies de gens, des émeutes. Ils ont été abîmés. Donc,
il est beau en même temps. Il est à côté de vous, là, il est très beau.
Manon est en extase. Il a été refait.
Il a été refait parce qu'à force de l'amener un peu partout, les gens le touchent. Il y a eu des mouvements de foule. Ils sont tombés. Donc, il a été écorché pendant un moment.
On peut le refaire faire.
Donnez-moi cette question technique, vu que je ne pense pas avoir d'Oscar dans ma vie, mais si jamais on a besoin de refaire faire un Oscar, où est-ce qu'on va le faire retaper ?
Il coûte plus cher qu'à l'achat au départ, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup moins d'or. Vous savez, on est compositeur, donc forcément, on est moins bien loti que les grands prix.
C'est pas les mêmes.
C'est vrai, c'est pas les mêmes.
Non. Et même l'or n'est pas peint de la même manière, etc.
C'est incroyable.
Donc, c'est ça, assez rapidement, d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, le mien un peu plus pâle que celui de Michel. On était au Japon, et on fait, regarde, c'est vrai qu'il y a un problème.
C'est pas le même grammage d'or.
Non, j'ai appris qu'en fin de compte, il y avait plusieurs catégories d'Oscars, etc., avec un peson d'or, plus ou moins dosé.
Les États-Unis, pays des inégalités, une fois de plus, on peut le souligner. 2012, vu par celui qui a triomphé en 2012, Ludovic Bourse, le compositeur de la bande originale de The Artist. Zoom Zoom Back, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, c'est vendredi, c'est Zoom Zoom Back, on ajuste le rétro et on se replonge dans une année marquante de l'histoire avec quelqu'un dont la vie a basculé cette année-là. Aujourd'hui, quelqu'un que, vous l'aurez compris à cette tornade de flagornerie qui vient de s'abattre sur lui dès l'intro, j'admire énormément. Il est dans mon panthéon personnel à la musique de film, ce que Abel Quentin est à la littérature. Ludovic Bourse, oui, est détendu, il est limite pépouze. Forcément, il se dit, le mec est fan de moi, il va me parler d'OSS, de The Artist. Éventuellement, s'il a une conscience professionnelle et qu'il a creusé un tout petit peu, il va remonter à mes collaborations avec Alain Bachung, ça va être confort cette émission. Seulement voilà, non, Ludovic. Parce qu'il se trouve que j'ai parmi mes amis quelqu'un qui vous connaît et qui m'a permis de remonter encore un peu plus loin dans votre carrière, jusqu'à ça.
Comme Homo Micro Plus, je plonge au cœur de la saleté de ton anus.
Que ça aussi, c'est Ludovic Bourse. Le Swing c'est chic, un titre du groupe de punk rap Zwinkels, de beaux souvenirs.
Ah ouais, très très fort. C'était une bande de copains de quartier. Ils habitaient dans une chambre de bonne, ils travaillaient sur leurs 4 pistes. Ils ne savaient pas comment faire des instrus. À l'époque, j'avais mon premier éditeur. J'avais un groupe de fusion avec qui on a eu la possibilité d'avoir des avances pour s'acheter du matériel. Et y a Mathieu, un des cofondateurs du groupe des Zwinkels, qui a été là. Et donc, j'aurais filé un coup de main pour faire
Vous étiez où,
des instrus, etc.
Quel quartier, c'est où votre
enfance ? J'étais dans un appartement rue Saint-Denis, exactement.
Ah oui, d'accord.
Ouais, bien entouré.
Rue Saint-Denis, pas loin de chez moi, comme quoi, les grandes se montent, pas du tout. Et si j'étais remonté encore plus loin, Ludovic, avec mon pote là qui vous connaît, mon ami, connaissait même votre premier instrument fétiche. L'accordéon.
J'ai jamais joué en plus, ça c'est Sardou, c'est ça.
Alors ça, vous avez jamais joué la jarrette de Broadway, c'est pas vous qui jouez, j'ai pas retrouvé l'enregistrement, mais vous êtes accordéoniste.
Ouais, je suis accordéoniste, j'ai commencé par ça justement. Et par hasard, parce qu'il y avait des gamins dans mon quartier qui jouaient de l'accordéon, donc je suis originaire de Bretagne, et au printemps, ils se sont mis à deux dans la rue, train de jouer. Et puis les gens se sont en tout cas mis devant eux. Et je me suis dit, tiens, moi aussi je veux faire comme eux pour attirer l'attention sur moi.
Voilà. Comme quoi l'accordéon mène à tout, même aux Oscars. Mon pote, vous connaissez vraiment bien. Bisous, Dimitri.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Alors, Ludovic Bourse, on va évidemment revenir sur l'aventure The Artist et feuilleter ensemble l'album Souvenir de 2012. Juste le temps de vous présenter mon orchestre à moi. Et comme on n'a pas tous les jours la chance d'avoir un compositeur oscarisé avec nous, je vais en profiter pour vous poser la question. Est-ce que Quentin, lui, peut nourrir des regrets? Est-ce que ce titre de 2016, Paris par la Paris, méritait mieux que l'oubli dans lequel il est tombé?
Qui parle dans le vide et ne regarde que lui.
À la SACEM, il cherche ce que c'est à la SACEM. Bon, comment on va redistribuer ces droits-là? C'est quoi ce groupe?
Ludovic, ça vous inspire quoi ça? Si vous avez fait des arrangements, ça aurait été mieux?
J'ai pas le temps d'écouter, c'est compliqué de s'imprimer. Déjà, il y a trois accords, et puis et le texte, je le découvre à peine, parce que vous n'arrêtez pas de parler. Non, mais je trouve ça formidable, de toute façon.
Il fait toujours ça.
N'importe quelle personne qui fait de la musique, etc., a un message à adresser, donc c'est formidable, et c'est sans fin, donc... moi, j'aime tout, hein, j'écoute tous les styles, etc., je suis bonne... bonne patte, quoi.
Moi, je retiens le mot, c'est formidable. Quentin, votre carrière est relancée. Quentin,
quatre, mais bon.
Chaque vendredi, vous nous ouvrez les portes des archives de l'INA.
Les JO à Londres, Hollande qui remporte la présidentielle et un ferry qui s'échoue dans la prochaine demi-heure, retour en 2012.
À vos côtés, Ludovic, même question qu'avec Quentin, car décidément, beaucoup d'artistes, ou en tout cas de velléité artistique dans ce studio. Est-ce que Manon Mariani a bien fait d'opter finalement pour le journalisme?
C'est la partie aiguë.
Il a pris la pire partie.
Oui, c'est pas la meilleure.
Avec un peu de...
Ah, vous aimez bien?
Ah ouais, j'aime bien.
Voilà, anonymisant.
Merci.
Bravo.
Après, on peut travailler sur Melodyne, plein de plugins qui vous permettraient d'affiner.
J'ai du mal avec les aigus un peu.
Mais c'est pas mal, j'aime bien le style.
Et la justesse, parfois.
Alors ça, c'est...
On s'appelle après. Très bien.
Vous emballez pas non plus, Manon. Manon, chaque vendredi, vous revenez sur une première fois marquante.
Un homme a sauté de la stratosphère en 2012, devenant le premier homme à franchir le mur du son, sans poser de questions pour ceux qui ont la ref. Il s'appelle Felix Baumgartner et derrière son exploit, il y a surtout une grosse opération de com' de Red Bull qui a marqué son temps.
Ah mais tout à fait, il a vraiment marqué son temps. 2012, dans la stratosphère, en politique, en musique, mais aussi au cinéma, Thomas Croisière nous racontera ce qu'il a vu en salle cette année-là. Charles Nouveau nous rejoindra en fin d'émission pour une chronique humoristique où j'ai visiblement tellement de répliques que je crois qu'on devra partager les droits. Mais d'abord, retour en 2012. Notre invité est tranquillement assis dans la salle du Hollywood and Island Center à Los Angeles quand soudain...
And the Oscar goes to Ludovic Bourse, the artist.
Elle le dit bien en plus.
Elle le dit bien, elle le prononce bien. Ludovic, qu'est-ce qu'on ressent là tout de suite quand on entend son nom déjà? Est-ce qu'on le sait avant? Vous êtes averti un peu avant ou c'est vraiment dans la salle que ça se joue?
On sait rien, mais on ressent éventuellement une énergie, quelque chose qui vous porte, je sais pas, c'est peut-être un peu égocentrique de ma part de dire ça, ou je sais pas, mais en tout cas, on ressent des choses. Et au fur et à mesure, on était aux États-Unis, de toute façon, on faisait beaucoup de festivals, beaucoup de projos, donc les gens venaient à nous et on commençait à sentir quelque chose qui était en train de monter. Et évidemment, le sujet du film et évidemment l'importance de la musique me mettaient en avant, donc je savais
que c'était possible, quoi.
C'était
possible. Ça sentait bon.
À partir des nominations, je voyais, en l'occurrence, j'aurais préféré que John Williams l'ait à ma place, parce que mais John Williams, on devrait lui donner un Oscar sur toutes ses musiques de films, etc. Ça, je le dis à toutes les interviews.
Il était nommé, face à vous
pour deux BO en plus d'un coup.
Ah ouais.
Ouais. Ce qui a peut-être redivisé les votes d'ailleurs, parce que voilà. Mais bon, après, j'ai fait une révérence, parce que je viens de l'école John Williams, parce que je ne suis à 1% de ce qu'il sait faire lui en musique, c'est autre chose. Mais en tout cas, donc voilà, on n'est pas très bien. Ouais.
Vous vous souvenez de cette semaine-là, Ludovic Bourse, avec Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, l'atmosphère qui régnait peut-être entre vous?
Oui, alors c'est vrai qu'on était un peu tirés partout. On était avec des publicistes qui vous amènent. Allez, interview ici, interview là. Il faut aller au Tea Party, il faut aller au Dej Party, etc. pour telle guilde, etc. Mais on nous montrait partout et on allait serrer des paluches à Clint Eastwood.
C'est une campagne électorale, quoi.
Ouais, ça en devient une campagne électorale, vu que.
C'est vraiment.
Nous, on l'appelle eux. Ouais. Eux, c'est une mécanique qui existe depuis tout le temps, etc. Et c'est très codifié.
C'est pas la même qu'avec les les Césars qu'en France, c'est vraiment la méthode à l'américaine.
Ah non,
quoi.
Là, c'est très, 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 très loin justement de la méthode et, de la, et justement d'organisation qu'il y a autour de ça. Puis les enjeux aussi financiers, parce que les mecs, ouais, ils mettent quand même beaucoup d'argent sur la table pour vous mettre en avant, etc. Donc, pour avoir aussi accès, comme aujourd'hui, à votre prestigieuse émission pour faire une interview.
C'est une très bonne conclusion pour cette première partie. On continue de zoomer.
Bien fait, hein.
C'est parfait. Sur 2012, avec notre invité, le compositeur oscarisé Ludovic Bourse, qui, vous allez voir, n'a pas fait que la BO de The Artist. Il est familier, par exemple, de la puissance du port du Havre.
Ah,
je
oui.
ne vous en dis pas plus. Zoom, zoom, back, revient juste après Gaël Faye, Petit Pays sur Inter.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapun weni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapun weni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis dans ma tête c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapun weni wapuye, warago weni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je
vis. Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Retour en 2012, cet après-midi, l'année du triomphe de The Artist, avec le compositeur de la musique de ce film culte, Ludovic Bourse, est avec nous avec son Oscar. Il faut raconter, tout à l'heure, on parlait de Michel Hazanavicius. Vous, vous dites, Michel, vous le connaissez depuis super longtemps, vous ne l'avez pas rencontré sur The Artist. C'est un ami de très longue date, c'est avec lui que vous avez commencé les musiques de films.
Ouais, c'est ça. Déjà, Michel faisait de la publicité et dans ses films publicitaires, des fois, il y avait de la musique et il me demandait à moi et à un autre ami, Kamel Echec, qui travaillait avec moi au début, qui est plus de ce monde, en tout cas, paix à son âme. Et on était ses potes, quoi, voilà, du coin. Et, voilà, ma première rencontre avec Michel a été assez houleuse parce qu'en fin de compte, on n'était pas d'accord sur certains critères musicaux, des choix, des trucs débiles, en fin de compte, et on s'est clashés. Et c'est 15 jours après, il a fait une fête chez lui et je me suis incrusté et puis j'ai vu sa discographie et je lui ai dit: ah, t'écoutes ça, tu connais Mancini, tu connais ça, bah, j'adore, etc. Puis on a commencé à relier, puis on a rigolé en gros de notre première rencontre qui était plutôt houleuse, mais comme ça a été aussi très houleux pendant toutes nos collaborations.
Ah
parce
bon
que bah oui, évidemment, comme moi j'avais un mon ego, Michel aussi, ses idées arrêtées, moi aussi, avec voilà.
Bah, excusez-moi, lui je connais pas beaucoup, mais là de ce que je vois depuis tout à l'heure, vous n'êtes que modestie. Alors vous êtes un ego dans la musique. Sur alors musicalement, on vous la fait pas quoi. Vous faites ce que vous voulez.
Non, j'ai changé. À une époque, ouais, j'avais quand même des idées très arrêtées et j'étais quand même assez très arrêté sur le sens large du terme, etc. Et donc je défendais mes idées exactement comme n'importe qui. Évidemment, quand vous passez énormément d'heures sur une séquence, vous dites tiens, c'est ça exactement, c'est ça ce que j'ai en moi et ce que je vais offrir en tout cas. Je sais que ça colle. Alors après, il faut appeler un autre compositeur qui aurait eu en tout cas une autre idée ou une autre mélodie pour coller aussi à l'image. Ça aurait été différent, mais tout est tellement possible grâce à la musique.
Mais justement, prenons un peu de recul par rapport à The Artist, comment ça se fait? Les gens n'ont aucune idée. La musique, elle se fait à quel moment du film? Elle se fait quand il y a déjà des séquences qui sont tournées, vous avez des images, vous devez imaginer la musique dessus, ou c'est l'inverse? Vous faites la musique et ensuite, je sais pas, comment ça se fait?
Alors, moi, au départ, j'ai toujours travaillé sur le papier, c'est-à-dire que le scénario.
Ah oui,
le scénario. À la lecture du scénario, j'essaye de tout de suite me mettre au piano ou de trouver des couleurs, ressentir plus ou moins qu'est-ce que va être, en tout cas, le stylisme, en parlant évidemment avec toutes les personnes et les réalisateurs principalement, et on se fait sa propre idée, sa propre image, et puis on commence à ressentir un peu, c'est une quand vous lisez un passage, il peut y avoir, vous ressentez quelque chose, c'est une énergie, une chaleur, et après on entend une forme de musique, des fois pas d'ailleurs, et après on se met au piano, et les choses peuvent être, on parle du fantasme, etc., et finalement après le travail, évidemment, les choses peuvent complètement drastiquement changer, etc., mais moi j'insiste pour travailler vraiment la composition, en tout cas le champ de liberté que propose en tout cas la lecture avant d'être confort quand les images arrivent. Voilà.
J'imagine qu'il y a des films plus difficiles que d'autres. Est-ce que pour composer une musique, est-ce que The Artist, c'est un film qui était, la musique est venue facilement ou ça a été compliqué pour vous?
Ça a été long, c'est-à-dire que il fallait remplir au moins. Le film fait 100 minutes. Il y a, je crois, une dizaine de minutes de musique d'époque, et le reste c'est que de la musique originale. Et c'est vrai que au départ, j'avais eu. On m'a dit tiens, t'as un an pour faire la musique du film. Et Thomas Longman entend à partir du mois de décembre qu'il y a un producteur américain qui cherche un poulain pour aller peut-être aux Oscars ou à Cannes, etc. Il s'intéresse. Il a vu en friche avec pratiquement 10% de la musique au mois de janvier le film. Ils se sont dit tiens, ça me branche. Si vous finissez à temps pour Cannes, on peut aller encore plus loin. Apparemment, c'est ce qui s'est dit. Mais bon, tout ça reste quand même c'est des gros magouilleurs qui parlent, etc. Donc, on ne savait pas au dernier moment, même jusqu'à la fin des Oscars, on aurait pu sortir. Le producteur, il avait 50 films sous son aile et il s'est dit tiens, je vais faire mon trio de tête à la fin. Et puis bon, finalement, je vois que The Artist, ça plaît parce qu'il y avait un hommage aussi aux États-Unis, Hollywood, etc. Donc voilà.
Chaque vendredi, il aime à se balader dans les archives de l'INA. Et tu m'étonnes, là-bas, des gens font tout le boulot pour lui. Quentin, c'est l'heure de votre complètement aux archives millésime 2012.
Et le 13 janvier 2012, la France perd son triple A. L'Hexagone est pour la première fois rétrogradé. François Baroin est à Bercy. Oh. Mais les infos de ce jour-là se concentrent sur une autre actualité plutôt rare.
Merci d'être avec nous. Et on va d'abord prendre la direction de l'Italie où un navire de la compagnie Costa Croisière s'est donc échoué près de l'île de Giglio en Toscane. L'accident a fait, je vous le disais, 3 morts et plus d'une dizaine de blessés. Scène de panique à bord. Certains des passagers se sont jetés à la mer avant même l'arrivée des secours.
Si près de la lagune a tangué le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir.
Le Costa Concordia, c'était en 2012 et un vendredi 13, comme aujourd'hui. Et Feu Chatterton en fera une merveilleuse chanson. Le 19 mars de cette année-là, un drame terrible. Vers 8 heures, un homme casqué gare un scooter devant un collège lycée juif situé dans un quartier résidentiel de Toulouse.
Les vitres, le portail d'entrée et la façade de l'école aux Arts à Torah, criblés d'impacts de balles. Un homme armé vient de semer la terreur à l'entrée de ce collège lycée de confession juive avant de prendre la fuite.
C'est juste que un tueur est passé en scooter. Il a tiré sur les enfants qui étaient devant l'école, donc... Voilà, on sait qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, qu'il y a... C'est très choquant, c'est très choquant.
Mohamed Merah, terroriste islamiste franco-algérien, le tueur de militaires à Toulouse et Montauban, quelques jours auparavant, sera finalement tué lors de l'assaut du raid à son domicile le 21 mars. Il a fait 7 victimes, dont 3 enfants. Cette actualité suspend même la campagne présidentielle. Car oui, 2012, c'est aussi une élection présidentielle. François Hollande en tête au premier tour et tout le monde se souvient du débat face à Nicolas Sarkozy.
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République ?
Il en fera 15 comme ça en tout, laissant son adversaire bouche bée. Quelques jours plus tard, l'anaphore prophétique prend forme, il est 20h.
Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. 17 ans après François Mitterrand, la gauche revient à l'Élysée.
2012, c'est aussi l'étrange fin d'un objet qui aura marqué toute une époque.
Il y en avait encore 420 000 en France. Désormais, ils trouveront une place à la déchetterie ou dans un musée. Le Minitel s'est définitivement éteint la nuit dernière, à minuit. L'outil était né à Rennes il y a une trentaine d'années.
Voilà, un bruit inimitable, mais fini le 36-15. 2012, c'est aussi une année de JO, les Jeux Olympiques. À Londres, une cérémonie d'ouverture exceptionnelle. Elisabeth II saute d'un avion avec James Bond et Mr Bean est hilarant en ne jouant qu'une seule note au synthé. Pendant ces JO, en remportant le relais 4x100 mètres 4 nages, l'Américain Michael Phelps, nageur le plus titré de l'histoire, met un terme à sa carrière en apothéose sur une 18e et dernière médaille d'or olympique. Il se retire avec un palmarès inégalé, 26 titres mondiaux, 22 médailles olympiques, dont 18 en or. Parmi les héros des JO de cet été de 2012, il y a lui aussi.
La foudre a encore frappé. L'homme des records et des superlatifs embrasse la piste et embrase le stade. Usain Bolt est le premier sprinter à conserver ses titres olympiques sur 100 et 200 mètres.
Je cours pour le public et le public aime ça. Le reste a peu d'importance. Tout ce qui compte, c'est que je gagne pour les gens qui sont venus me voir.
Le 11 février de cette année-là, on perd une voix et pas n'importe laquelle.
Bonjour Catherine, bonjour à tous. Une voix s'est éteinte hier. La chanteuse américaine Whitney Houston est décédée à l'âge de 48 ans dans un hôtel de Beverly Hills.
Oui, elle chantait fort. Oui. C'est vrai.
Whitney Houston,
elle chantait très
sublime.
Whitney Houston retrouvée inanimée dans la baignoire de sa chambre d'hôtel la veille des Grammy Awards. Tristesse infinie. En 2012, il y a une autre élection présidentielle, mais disons, moins serrée qu'en France.
Les sondages avaient vu juste. Ils annonçaient la réélection de Vladimir Poutine dès le premier tour avec plus de 60% des voix. Le scénario s'est révélé exact. Ça dépassera même les 60% d'après les estimations.
Poutine, qui avait déjà effectué deux mandats consécutifs entre 2000 et 2008, ne pouvait démocratiquement pas se représenter. Il a donc attendu un petit mandat de son vice-président de l'époque pour revenir. Suspicion d'élection truquée. Malgré tout, 100 000 personnes sont sur la place Rouge ce 4 mars 2012 pour fêter ce retour.
Merci à tous ceux qui ont dit oui à la grande Russie. Je vous ai demandé un jour si nous gagnerions. Nous avons gagné dans une lutte ouverte et honnête.
Tout à fait honnête, bien sûr. Il a repris le pouvoir et 12 ans plus tard, il y est toujours. Depuis, il a envahi la Crimée, attaqué l'Ukraine et fait craindre au monde une guerre nucléaire. Ainsi se referme Pépouze, ce complètement aux archives de 2012.
Merci Quentin pour ce flashback. Ludovic Bourse, pour vous, elle a été tellement folle cette année 2012. Est-ce que vous vous souvenez d'un seul des trucs dont on vient de parler avec Quentin ? Vous suiviez l'actu, vous étiez enfermé dans votre aventure.
On était quand même enfermé dans notre aventure. Il fallait se concentrer sur tout. Moi, j'avais un très mauvais anglais qui était exécrable. Donc, il fallait se concentrer sur...
Vous avez pris des cours d'anglais ?
Non, j'ai écouté. Après, j'ai commencé à trouver plus de facilité pour communiquer. Après, ça va assez vite. De toute façon, l'anglais, c'est pas... langue en soi compliquée, on peut trouver plein de mots pour pouvoir s'exprimer assez précisément. Voilà.
Après cet Oscar, vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais prévu de vous poser la question, est-ce que ça peut être à un moment un fardeau ? Et vous avez anticipé en disant que ça a été un fardeau. Mais vous le disiez en blaguant ou vraiment, à un moment, ça a été lourd, le poids de cet Oscar ?
Ouais, c'était assez lourd. Après, c'est un peu le syndrome de l'imposteur aussi, parce que tout ça, ça a été tellement déferlante sur tout le monde. Donc c'est quand même un film, c'est une petite romance, certes il est en noir et blanc, il se passe aux États-Unis. Donc après c'est un regard des Américains qui ont bouleversé complètement le champ d'action sur un film où personne voulait en France se produire. Un film muet en noir et blanc en 2012, personne n'y est allé, à part Thomas Langman qui s'est dit ouais, ce mec-là est fou, il a un projet genre incroyable, donc j'y vais quoi.
Il y a évidemment une dimension chance. dans cette histoire de The Artist, on est d'accord. En revanche, j'en ai marre d'entendre votre modestie, Ludovic, parce que moi, j'utilise tout le temps les musiques d'OSS dans des chroniques humoristiques pour faire des virgules humoristiques. Il n'y a aucune musique d'aucun compositeur, John Williams, parfois je mets du John Williams aussi, qui est aussi efficace humoristiquement que Speed Date Car, que des trucs que vous avez composés pour OSS. Vous êtes un géant de la composition.
Non.
Et j'aimerais savoir ensuite toutes les professions que vous avez eues. Il paraît que vous savez beaucoup dire non. Vous dites non à des projets.
Ça m'arrive, mais en général, je suis pas non plus. J'ai pas 36 000 propositions, voilà. Donc après, je vais faire des rencontres. Et puis, il y a les projets, ouais, sur lesquels j'ai dit non. Puis il y en a surtout plein où je suis arrivé en pompier parce que j'ai remplacé des confrères ou des consoeurs sur pas mal de films. Donc, j'aime bien ce challenge-là parce qu'en final, on a peut-être deux mois, trois mois
pour
faire le film et puis en tout cas respecter l'échéance justement du mix final, etc. Donc,
on savait que vous étiez un compositeur, on est quoi, vous étiez un pompier aussi de la composition musicale, vous voliez la rescousse des films. Oui. Avec Manon, dans quelques instants, nous allons quitter l'atmosphère pour une première fois assez inoubliable en 2012. Thomas Croisière nous parlera des autres films qui ont marqué cette année-là. Zoom Zoom revient après Liv Oddman, Lux sur Inter.
On gonfle les barres, ils misent le double. Augmente la vise, on porte le vise, on vise le joule. Pas d'hésitation, pas de répétition, sort de la douche. Ici c'est ça, si tu te balles, c'est que tu doutes. Cramer les étages, monter d'un immeuble, gagner la tour. J'porte les kilos, j'porte le calibre, j'garde les douilles. J'veux pas de surprise, j'ai trouvé refuge dans le four. C'est la reine, soit tu te ramènes, soit tu te couches. Viser la dure et viser l'endurance, viser le pur. J'ai vu le futur, y'a de la violence sur tous les murs. Éteins la télé, ferme les volets, prends la voiture. Sors la prochaine, cherche le progrès, cherche le luxe. Elle veut me parler, j'suis pas ses pros, non j'crois que ses yeux. J'vois d'indécision, beaucoup de questions, elle me ça fait part. J'ai toujours tranché entre les options, rouge et le bleu. Soit c'est les diamants, soit c'est la confiance, jamais les deux. Remets de l'ego, remets du nitro, plein dans la caisse. La raison connaît ses limites, serre-toi un verre. Baisse la visière, prends de la vitesse, coupe la tête. Passer la limite, prends de la distance, casse les fenêtres. Remets du diesel, remets du nickel, remets du fuel. Brûler le passé, fais de la place sans aucun doute. Ferme les fautes, envoyez les fautes, trace ta route. Ici c'est ça, la puce, allez, ferme ta bouche.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Ludovic Bourse, comme vous êtes un compositeur oscarisé, j'ai décidé de ne pas me foutre de votre gueule, question illustration musicale cet après-midi. Alors, si je vous dis que maintenant avec Manon, on va s'envoler, forcément... La qualité, rien que la qualité, c'est la devise de cette émission. Manon, vous revenez sur une première fois vertigineuse en 2012.
Début de l'automne 2012, le monde entier a le vertige. Et pour cause, les yeux de millions de personnes sont rivés à 38 960 mètres d'altitude au-dessus de la Terre, sur une petite capsule où un homme s'apprête à sauter dans le vide.
Speed 546.
Félix Baumgartner, un parachutiste autrichien, a accompli l'un des exploits les plus incroyables de l'histoire de l'humanité. Il a sauté depuis la stratosphère, devenant le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Quoi de mieux pour lui rendre hommage que ce tube de Willie Denzey? Je savais que ça allait plaire à Quentin. Ah oui. Félix Baumgartner bat plusieurs autres records, celui du saut le plus élevé, de la chute libre la plus longue en distance et de la vitesse la plus élevée atteinte par un humain en chute libre. Pour bien comprendre cet exploit, on revient quelques minutes en arrière. On est donc le 14 octobre 2012, 19h, heure française. Des millions de personnes sont connectées sur le live YouTube de Red Bull pour suivre le saut de Félix Baumgartner. Dans la ville de Roswell, aux États-Unis, le parachutiste est enfermé dans une capsule pressurisée, accrochée à un ballon géant en hélium qui va monter vers la stratosphère. La montée a duré environ 2h30 jusqu'à atteindre une altitude de 39 km. Pour survivre aux températures glaciales, Baumgartner porte une combinaison pressurisée, évidemment. Il est 21h30 quand la capsule est stabilisée. Félix se met debout sur une petite plateforme extérieure et il saute. Il déploie son parachute après 4 minutes et 16 secondes de chute libre et atterrit au Nouveau-Mexique après 9 minutes. Le monde entier est ébahi et une entreprise en particulier est très contente de cette opération, Red Bull.
Vite, c'est l'heure d'un Red Bull.
Un Red Bull? Mais ça ne te rendra pas plus rapide que le lion.
Pas besoin d'être plus rapide qu'un lion. Juste plus rapide que toi.
Red Bull donne des ailes.
Car ce saut n'est pas un projet aérospatial traditionnel financé par la NASA, c'est la marque de boissons énergisantes qui est derrière. Pendant 5 ans, c'est elle qui a dirigé l'intégralité du projet qu'elle a appelé Red Bull Stratos. Elle a recruté une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de spécialistes de l'aérospatial pour assurer la réussite du saut. Et surtout, elle l'a financé. Le chiffre n'est jamais sorti officiellement, mais ce record est estimé avoir coûté entre 20 et 50 millions de dollars. On s'approcherait plus des 50. En même temps, logique, on ne parle pas d'équipement de sport extrême traditionnel, mais de capsules et combinaisons pour aller dans la stratosphère. D'ailleurs, Red Bull l'a vendu en partie comme un projet scientifique pour pouvoir améliorer les équipements de protection des astronautes. Je dis en partie car, ne soyons pas naïfs non plus, ce saut, aussi impressionnant soit-il, a surtout été l'une des plus grandes opérations marketing de l'histoire. Red Bull a voulu donner encore plus de sens à son slogan qu'on a entendu, la boisson qui donne des ailes, et pour le coup, ils ont bien réussi. Le logo en énorme sur le parachute de Félix Baumgartner est une image marquante, d'autant plus qu'elle a été vue, comme je l'ai dit, par 8 millions de personnes qui ont suivi l'événement en direct sur YouTube. À l'époque, c'était du jamais vu. Twitch existait à peine, Squeezie était encore dans sa chambre d'ado, et le clip qui cartonnait, c'était ça. L'enfer sur Terre.
Avec la Corée.
Gangnam Style, qui reste tout de même la 10e vidéo la plus vue de YouTube.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui. Mais organiser un événement aussi important que le Red Bull Stratos, c'était totalement novateur sur Internet. Il a engendré des millions de messages sur Twitter et sur Facebook à l'époque. Des mèmes et des montages ont été créés autour du saut pendant des semaines. C'était vraiment le truc à ne pas louper. Et ça a eu un impact énorme pour la marque. 5,2 milliards de canettes ont été vendues en 2012, soit 13% de plus que l'année précédente. Red Bull a aussi capitalisé là-dessus pour devenir le sponsor des sports extrêmes et des événements autour. 12 ans après, on préfère se rappeler de l'événement que de Félix Baumgartner qui a eu depuis des propos xénophobes en 2016 concernant la politique d'accueil des migrants en Allemagne. Il a aussi apporté son soutien au controversé premier ministre d'extrême droite hongrois Viktor Orban. Red Bull, la boisson qui donne des ailes, mais pas forcément un cerveau.
Oh, oh oui, bam, bam, bam.
C'était gratos.
Ça fait du bien. 2012, c'était... Il y a un petit moment maintenant, Ludovic Bourse, est-ce que vous êtes toujours aussi proche de Michel Hazanavicius ?
Il est venu dans mon quartier depuis une dizaine d'années, m'emmerder, et il habite à 50 mètres de chez moi.
Comme ça, vous pouvez continuer à vous disputer comme ça au quotidien ?
Non, pas du tout, non, c'est toujours un bonheur, on adore se voir, se croiser, etc. Donc, non. Et il habite vraiment à 50 mètres de chez moi.
Ludovic Bourse, est-ce que vous avez d'autres projets avec lui, cinématographiques ?
Non, pas du tout, depuis The Artist, on a décidé en tout cas de stopper un peu notre collaboration par rapport au conflit qu'on pouvait avoir sur les choses. Je pensais que c'était un peu mieux de préserver en tout cas notre amitié, etc. Mais après, on verra s'il fait des bons films, pourquoi pas.
Ouais. Oh il s'attaque là.
Allez,
je plaisante. Non, mais il aime ça, de toute façon.
Ça a été visiblement assez intense entre vous deux.
Je t'aime, Michel.
Vous dites que vous avez été influencé par Michel Legrand. Michel Legrand qui a remporté 3 Oscars. Il y a aussi Maurice Jarre, Georges Delerue, ouais. Gabriel Yared, Antoinette Francis-Lay, évidemment Alexandre Desplat, deux fois. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une French touch dans la musique de film ? Est-ce que c'est un truc qu'on a réussi ?
C'est vrai qu'on a peut-être un héritage de nos contemporains, de Ravel et de Debussy, qui sont très présents toujours depuis un siècle maintenant. Et ça s'inscrit, évidemment, il y a une forme de digestion par rapport à la complexité, la richesse harmonique et rythmique, etc., qu'il y a dans cette musique dite française. Et bien, il n'y a pas que, il y a plein d'autres, mais c'est une période, en tout cas, qui a été initiatique, en tout cas, pour tous les compositeurs que nous sommes maintenant, etc., qui arrivons en tout cas à amener une autre sensibilité que celle d'Hans Zimmer, dont j'apprécie la musique aussi, mais qui est beaucoup plus martiale, avec beaucoup plus d'emphase, avec des thèmes extrêmement lourds, pesants, etc., très psychologiques, en gros, comme l'a fait aussi Bernard Herrmann. Si je compare pas évidemment Zimmer et Bernard Herrmann, c'est deux champs de compositeurs qui sont complètement différents, mais Bernard Herrmann a réussi à ramener, grâce aussi à sa complicité avec les collaborations d'Hitchcock, une forme de musique très psychique qui arrive tout de suite, vous percutez dans la tête et vous scotche au siège, etc. C'est ce qu'arrive à faire aussi Zimmer, mais avec beaucoup plus de percussions, avec un côté dit allemand, c'est ce qu'on dit nous dans notre jargon, nous, les compositeurs, etc. Mais c'est pas pour me foutre de lui quoi que ce soit, parce que je lui envoie un email maintenant, Hans, il me répond tout de suite, c'est un mec super cool.
Ouais, alors, classe,
ce niveau de connexion.
Non mais c'est vrai. Hein.
Grand écart avec Hans Zimmer et Michel Legrand, mais Mathieu le disait en début d'émission, vous avez aussi composé pour un film culte, du moins pour ma génération. Ouais. Cette musique, par exemple. Comment vous êtes retrouvé à bosser pour Michael Youn?
Sous pseudo, parce que.
Oui, sous pseudo,
pas content, ouais, Ludovic. Ouais.
Révélé récemment.
Ouais. Mais je crois que c'est Michael, je sais plus qui a balancé, en gros, Ludovic Bourse, Café The Artist, OSS, ouais, etc. Ça. Bon, bref. J'avais un pseudonyme, moi, ça s'appelle PGD, c'est Planet Get Down, il fallait que j'en trouve un, voilà. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est pendant sur le tournage du film, ils avaient cette fameuse séquence, etc., du chant de Alphonse Band, et il y avait ils ont fait le tour de Paris pour avoir tous les producteurs et avoir un morceau qui pouvait coller, et finalement mon éditeur, c'était Olivier Lefebvre chez Universal, qui vient me dire: écoute, ils ont plus d'argent, il n'y a plus rien, par contre ce qu'ils te proposent, c'est être coproducteur du titre, et on le fait. Et je lui fais: quel accord, ça, on va se tirer les cheveux, on va avoir plein de cheveux blancs, mais à mon avis il y a peut-être un truc à faire, et on va bien se marrer, parce que le mec est fun. Moi j'aimais
mais
bien,
mais c'est la première fois qu'il chante, parce que c'était avant Fatal, avant tout ça. C'est la première fois qu'il posait sa voix.
Ah ouais.
Exactement.
Il chante bien.
Il est très talentueux. C'est un gros bosseur déjà. Mm-hmm. Et ce qui se passe, c'est que j'ai perdu le film, mais en tout cas, ouais, Michael est quelqu'un qui bosse énormément.
Et vous êtes coproducteur de la chanson.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est
voilà.
Intéressant finalement.
Voilà. Et en gros,
parce qu'elle a cartonné quand même.
Ah oui.
Pour préciser.
Ah ouais, ça fait un million de singles. Ah oui. Ça a été. J'ai pu.
Vous pouvez mettre de l'or sur l'Oscar.
Non, mais j'ai pu aller voir le banquier. Dire: écoutez, je pense que j'ai une petite somme d'argent qui va tomber, je vais pouvoir peut-être m'acheter quelque chose, etc. Bon, c'était le cas. C'était, ben, voilà.
Si 2012 est marqué par les 6 Césars, les 5 Oscars, dont les vôtres pour The Artist, Ludovic Bourse, des récompenses qu'en dépit de son talent, Thomas Croisière n'a jamais remporté, je lui ai tout de même demandé de nous raconter ce qu'était 2012 au cinéma.
2012, année de la lose au cinéma. Par l'absence tragique de créativité, toutes les premières places des box-office mondiaux sont trustées par des suites, spin-offs et autres séquelles. Et rien qu'en France, le numéro 001, c'est 007. La 25e aventure cinématographique de James Bond, alors incarnée par Daniel Craig, rassemble 7 millions de spectateurs. Belle façon de fêter le 50e anniversaire de la franchise, débutée avec Sean Connery. Skyfall, avec plus $1 milliard de recettes mondiales, est toujours le plus gros succès de la saga. Sa chanson-titre fut couronnée aux Oscars, et je vous demande pardon pour ce qu'il va se produire.
Oh non.
Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall, face it all, together let the sky fall. Et puisque l'année cinéma avec Tekken 2,
tout
la vérité,
Six Jours
3, L'âge de glace 4 ou Twilight 5 n'est qu'une ressucée de déjà-vu, l'unique film original présent dans le top 10 de 2012, c'est Sur la piste du marsupilami d'Alain Chabat. Et mes nuits sont encore hantées par Lambert Wilson jouant Céline. I get wings to fly, c'est bon, je vais plutôt partager mes musiques préférées de James Bond en débutant par Tuer n'est pas joué. Hey, 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 the living daylight,
Living, Living Daylights. Première apparition en 007 de Timothy Dalton, qui n'est pas le frère de Joe, Jack, William et Avril. Cette chanson est souvent considérée comme la pire de la série. Mais à l'époque, oui, j'ai 13 ans et je suis fasciné par Morton Harkett, le leader de AA. John Barry, le compositeur historique des musiques de Bond, le fut moins, puisqu'après leur collaboration, il qualifia le groupe norvégien de jeunesse hitlérienne. When you were young and your heart was an open book. Impossible de ne pas mentionner Paul McCartney qui à chaque concert fait péter la pyro sur Live and Let Die qui accompagnait Vivre et Laisser Mourir, huitième aventure de l'espion et la première pour Roger Moore. Et si j'ai aimé la période coupe mulet de Polo, un des plus beaux de la pop reste celui de Simon Le Bon, chanteur de Duran Duran. Dance into the fire. Fatal kiss is all we need.
Avec moi.
Dance into the fire. The fatal sounds way of broken dreams. Elle accompagnait Dangereusement Vôtre, dans lequel les producteurs souhaitaient David Bowie en méchant. Il refusa et c'est Christopher Walken qui le remplaça. Et dans ce monde de brutes, un peu de douceur, celle de Carly Simon. Nobody does it then. Elle accompagne L'espion qui m'aimait, ou dans la langue de Barbara Bach, The Spy ou Loved Me. Cette chanson est pour Thom Yorke, qui la reprend souvent en concert, la plus sexy de l'histoire. Fan de Bond, son groupe Radiohead se fit refuser leur titre Spectre pour le film éponyme. Les producteurs lui préférèrent Writings on the Wall de Sam Smith. Et celle-là, je vous l'épargne.
Oh, vive le cinéma !
Mais pas de 2012.
Merci beaucoup, Thomas Croisière. Ludovic Bourg, c'est la prochaine étape, un James Bond.
Ah ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien.
Ça serait vachement intéressant.
Ah ouais, j'ai
ça.
Plein d'idées. En plus, j'ai le thème d'ailleurs, depuis au moins 20 ans de côté que j'attends pour.
Mais non.
Mais ouais, c'est le même thème. C'est
vous avez notes. Dans votre ordinateur.
Ah non, c'est un autre thème. C'est un truc que j'ai composé il y a très très longtemps. J'ai composé pour un James Bond.
Attendez, il doit y avoir un cahier des charges monstrueux pour James Bond. Il doit falloir revisiter le thème de James Bond et en ajouter un autre, c'est ça ?
Ça, je sais pas. En l'occurrence, je pense que ça a dû changer quand même un petit peu. Mais il y a toujours des reprises dans ces franchises-là du thème, par exemple, sur les autres films de, comment dirais-je, de musique de la Lochifrine, pareil aussi, ils reprennent le thème
de
Mission Impossible.
Mais Ludovic, pardon, je m'arrête un tout petit peu sur ce moment qu'on est en train de vivre, parce que souvent je dis intérieur nuit, on lance un appel, quelqu'un pourrait faire. Mais là, Ludovic Bourse, oscarisé, qui dit j'ai chez moi dans mon ordinateur, j'ai bossé sur James Bond, je suis prêt, appelez-moi. Les gens qui produisent James Bond, ils peuvent penser à vous tout à fait sérieusement pour faire James Bond.
J'ai un super thème, tout que je cajole depuis des années. Mais finalement, peut-être je le mettrai sur un autre.
S'il n'appelle pas, c'est vite. Voilà ce que vous allez faire.
C'est ça.
Il ne sait pas jouer d'un seul instrument, mais quand on le voit, il y a de la musique dans nos cœurs. Charles Nouveau, de quoi vous allez nous parler tout à l'heure ?
Eh bien, vous remarquerez qu'hier, on était le 12 décembre, 12 du 12, 2 fois 12, 12 du 12, 24, 24, 2 fois 12 aussi, Mathieu.
Et donc ?
Et donc, rien à voir, je vais parler de compositeur de musique de film.
Complètement taré. La chronique visiblement bien barrée de Charles Nouveau, c'est juste après C2C, Down the Road sur Inter. To go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Oh, Et ça discute, et ça papote, et ça s'amuse, c'est ça, Zoom Zoom Zen. Pour conclure cette très musicale émission, on voulait aussi une perspective internationale sur le monde de la bande originale. Giacomo Vermicelli, compositeur italien, vous aussi, la musique c'est depuis tout petit.
Depuis tout petit, certo, je pense comme la majorité de mes collègues, à la maison, à l'école, après au solfeggio. Mais d'abord, le coup de foudre pour moi, c'est la découverte d'Ennio Morricone.
Dans un western.
Non, dans publicité de nourriture canine.
Et vous composez aussi des bandes originales de films, notamment des films français.
J'aime le cinéma français, j'aime faire la musique pour le cinéma français, cinéma d'auteur. C'est beaucoup espace pour la musique, parce que dans l'histoire, il se passe presque rien. Alors, les ticket holder, il est plus attentif à mon travail.
Parmi vos sorties françaises, pour citer les plus connues, Les Libellules chanteront peut-être, de Joséphine Fuget.
Mm-hmm, c'est un film sur un homme qui ne sait pas s'il va reparler à son père, parce qu'après, avant, il a épousé... meilleur ami son père.
Les Petites Mouettes de Tristan Jablonski.
C'est un film sur une femme qui hésite à demander le divorce parce qu'elle a la phobie administrative.
Et le Secret des Framboises de Catherine Claus-Sanchez.
Et ça, c'est un documentaire sur les framboises.
Très bien. Et vous connaissiez, j'imagine, le travail de notre invité, Ludovic Bourse.
Oui, je viens du 7-6 de Franck Pédouvis, je représente le Havre avec mon complice. Oui, certo, OSS 117, bravissimo, nananananana, bambino, bambino, iconique. Et dopo The Artist, que c'est le fantasme absolu pour moi comme compositeur, un film que les acteurs ne parlent pas. C'est un plaisir quasi pornographique pour moi.
Meilleure musique, meilleur costume, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur.
Hein. Et comme c'est des acteurs français qui ne parlent pas, personnellement, j'aurais donné aussi meilleurs effets spéciaux.
On est forcément un peu fiers. Meilleure musique, ce n'était pas arrivé pour un Français depuis Yann Tiersen. Il n'a pas eu même
non,
pour Amélie Poulain,
pas eu,
par exemple.
Non, il n'a pas eu Yann Tiersen. Mama, il a eu Oscar. Il aurait pu avoir Oscar musique plus jouée dans les gares chaque année depuis 2001, je crois.
Vous connaissez bien Yann Tiersen?
Non. Les gens demandent toujours, ah, vous connaissez Hans Zimmer, ah, il est sympathique, Danny Elfman, ah, il est vraiment chauve, John Williams. Bon, je sais pas, c'est le même métier, mais c'est pas cohabitation quotidienne comme Mathieu Natale, Léa Salamé. Chacun fait pleurer ses musiciens dans son espace, à lui, avec sa propre méthodologie, et ponctuellement, on se retrouve au même endroit pour un gala.
Fleet from Desire.
Excusa.
Pardon, un réflexe. Et John Williams est peut-être chaud, mais il a 54 nominations aux Oscars pour se consoler, un record.
54 nominations, 49 défaites, statistiques comparables à Stade Malherbe de Caen. Ça aussi, c'est un record.
Après, j'imagine qu'au-delà des récompenses, ce qui compte le plus, c'est d'avoir marqué, de rester dans l'imaginaire des gens. Et ça, John Williams, il l'a fait, évidemment.
Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, il est plus franchisé que McDonald's.
Vous auriez pu citer Les Dents de la Mer.
Certo, Les Dents de la Mer, c'est aussi un titre d'un film que j'ai fait sur une dentiste qui se présente à une élection municipale à Tourcoing.
C'est sorti quelque part, ça ?
C'est cette salle.
Monde. Merci, Marcello. Merci, Charles Nouveau. Surtout, on vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, dans Zoom Zoom Zen. Et je signale que vous êtes encore pour 3 samedis, et 3 samedis seulement, dépêchez-vous, à la Nouvelle Scène à Paris, avant une grande tournée début.
Et donc, pensez à la tournée en France.
Ah oui, en France, 2025, oui, bien sûr. 2025, bien sûr. Tu sais le dire, c'est en italien ? Oui.
2025.
Oui, oui, c'est approximatif, mais c'est bien. Merci infiniment, Ludovic Bourse, d'avoir
Merci
passé cette petite heure avec nous.
Un
Alors,
plaisir.
Sur quoi vous bossez en ce moment ?
Je viens de finir la musique d'un film qui s'appelle sur le guide du routard. S'appelle Le Routard, réalisé par un vieux copain qui s'appelle Philippe Michelin qui est scénariste et qui se met pour la première fois, en tout cas, seul aux manettes. Et c'est dans le dernier film dans lequel aura joué Michel Blanc, d'ailleurs, qui joue le rôle d'un méchant dedans.
Okay.
Et de
ça sort
professeur Charroux. Ça sort le 2 avril et dans toutes les salles, etc. Donc c'était un gros chantier, mais très très content. J'espère que notre travail vous plaira.
On sera là. Merci encore, Ludovic Bourse. Merci à tous, les amis. Manon, Quentin, Thomas, Charles. À tous ceux qui nous aident à préparer cette émission au quotidien. Florence Gimalac, Alexis Lacour, Pierre Courade, Valentin Gelsomino, Romain Bonifacier, Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était The Artist, Ghislain Fontana. À la technique, Fabrice Desmas. Zoom Zoom revient lundi 16h. On décryptera l'actu du jour en compagnie d'une autre star de cinéma, Guillaume de Tonquédec, qui viendra fêter le retour de Fais pas ci, fais pas ça. D'ici là, bon week-end à l'écoute d'Inter.
Zoom Zoom Zen.